franceinter.fr. Alain Baraton, c'est terminé, je ne vous donne plus de pain le matin. Parce que ça gonfle.
C'est agréable.
Comment ça va, mon cher Alain?
Eh bien, ça va très très bien. Bon. Très très bien.
Vous allez nous parler ce matin d'un inconnu.
Oui, enfin je pense.
Jean Robin.
Oui, qui est, d'après moi, inconnu de la quasi-totalité des auditeurs. Très peu savent en effet qu'il est né à Paris en 1550 et qu'il fut l'un des tout premiers scientifiques à s'intéresser aux arbres originaires du continent américain. Oui. Jean Robin va consacrer sa vie à l'étude des plantes et il va, en sa qualité d'herboriste et de botaniste du roi, servir plusieurs monarques, Henri III, Henri IV et Louis XIII.
Et alors, est-ce qu'il cause avec ses homologues anglais?
Eh oui, et en particulier avec John Tradescant, qui est un scientifique réputé et surtout un grand voyageur. Quand celui-ci revient de la région des Appalaches, une chaîne de montagnes située à l'est des États-Unis, il a dans ses poches les graines d'un arbre alors totalement inconnu en Europe. Celui-ci sera baptisé par la suite, et à tort, Acacia. Bien évidemment, il offre des graines à son ami Jean Robin qui s'empresse de les semer.
Et petit à petit, les graines deviennent de petits arbres.
Eh oui, et ils sont alors plantés en différents lieux de la capitale, dans le jardin de Jean Robin sur l'île de la Cité, à l'emplacement de l'actuelle place Dauphine, et dans un espace qui deviendra en 1928 le square Viviani.
C'est le square qui est près de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, c'est ça?
Oui, tout à
fait. Avec une superbe vue sur Notre-Dame.
Ah oui, il est séparé par la Seine. On voit Notre-Dame, il est absolument magnifique. C'était un très bel endroit. Eh bien, c'est ici que l'arbre planté il y a plus de 400 ans par Jean Robin continue de vivre. Il est devenu l'arbre le plus vieux de Paris. Il n'est pas très grand, 11 mètres. La circonférence de son tronc est d'environ 3 mètres 85-90. Il est maintenant étayé par une poutre en béton.
Mais oui,
parce qu'il est devenu fragile et fatigué.
Bien. Vous avez dit qu'on l'appelait à tort Acacia.
Eh bien, son véritable nom, est Robinier Faux Acacia. Robinier pour Jean Robin. Alors, autre petite précision, non plus sur l'arbre, mais sur le square Viviani. Il est ainsi baptisé en l'honneur non pas de Vincenzo, astronome italien du XVIIe siècle et disciple de Galilée, mais de René Viviani. René Viviani qui fut au début du siècle dernier député, ministre, président du Conseil et l'un des inventeurs de l'impôt sur le revenu.
C'est pas vrai.
Bah, si. Et si, parce que la première fois que j'ai vu ce vieil arbre à Paris qui vivait dans ce square, je pensais que c'était vraiment l'astronome italien. Et je me disais, donner le nom d'un jardin à un homme qui regarde les étoiles, c'est merveilleux. Eh bien non, on a préféré donner un square, le nom d'un square, à un arbre qui a créé l'impôt sur le revenu. C'est un peu moins rêveur.
Il m'a été conseillé de protéger du gel un jeune cèdre du Liban. Est-ce exact, vous demande Isabelle?
Eh bien oui. Oui, car contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, le cèdre du Liban, au tout début de sa vie, eh bien, un petit peu comme un nourrisson finalement, eh bien, il est fragile. Les cèdres du Liban sont capables de vivre dans des conditions extrêmes, mais adultes. Quand ils sont jeunes, eh bien, ils sont frileux. Alors on va dire, mais comment font-ils, par exemple, au Liban, là où il y a un épais tapis de neige? Eh bien, justement, la neige protège les jeunes plants du froid hivernal. Ce qui explique qu'une fois qu'ils ont quelques années, là, ils sont capables d'affronter les moins 15, moins 20, voire moins 30 degrés sans aucune difficulté. Mais quand ils sont tout petits, quand la petite graine vient de donner naissance à une petite branche, quelques petites feuilles, eh bien oui, le gel peut provoquer de gros dégâts. Mais oui, mais les arbres sont des êtres vivants et je me suis admiratif devant ces plants qui sortent de terre. C'est assez extraordinaire. Regardez, on se rappelle tous quand on était enfant d'avoir mis à germer des haricots. C'est assez extraordinaire de voir que finalement d'un volume restreint est capable de sortir une tige importante et de fabriquer sous nos yeux ébahis des feuilles.
Je suis sûr que vous n'avez jamais mis à germer des haricots, Pierre Veil.
Non, mais en revanche, le square Viviani, j'adore. Je peux passer des heures, il y a quelques bancs, on a Notre-Dame, on a cet arbre très ancien, c'est romantique.
Très bien.
Donc si vous voyez un monsieur qui a un air absolument catastrophé sur un banc, c'est Pierre Veil.
Non, mais Pierre Veil vient de résumer finalement ce qu'est vraiment le monde du jardin. Il y a d'un côté ceux qui entretiennent, qui connaissent les plantes, qui savent, j'allais dire, leur parler, et ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde du jardin, mais qui apprécient justement profiter d'un jardin, et s'il n'est pas capable, Pierre, de parler aux arbres, peut-être les entend-il.
Oui, mais il leur parle, je suis sûr qu'il leur parle. Il parle tout seul, de toute façon. Oh, que...
Autant que soit aux arbres.
Que puis-je faire maintenant pour pour boucher les trous visibles sur ma pelouse.
Alors, il n'y a pas grand-chose à faire.
C'est Athénaïs qui voudrait le savoir.
Déjà, il faudrait savoir pourquoi il y a des trous dans la pelouse. Les trous peuvent venir d'un excès d'engrais. Les trous peuvent venir d'un débordement de réservoir de tondeuse. L'essence va tuer l'herbe. Les trous peuvent aussi venir des petits félins. On a souvent des petits chats ou des petits chiens qui viennent régulièrement se soulager sur une pelouse. Et à force, cela peut tuer l'herbe et faire donc les fameux trous. Alors, le semis, on oublie en ce moment. Il est toujours possible de faire un plaquage de pelouse, mais ça, le plaquage, c'est uniquement si on a la chance d'avoir un grand jardin. Le plaquage consiste simplement à découper façon moquette un petit morceau de gazon à un endroit du jardin pour venir là, combler le trou finalement, là où il y en a besoin.
Mais ça, c'est uniquement. Ça fait un trou ailleurs.
Non, parce qu'on peut très bien choisir un endroit un petit peu reculé où c'est moins inesthétique. Donc le plaquage, oui, on peut en faire maintenant. Le semis, il faudra attendre maintenant le printemps.
Comment sait-on que son compost est prêt à l'emploi, vous demande Denise.
Quand en le remuant, en le regardant, on n'est plus capable de voir exactement de quoi il est composé. Si vous êtes encore capable d'identifier le nom des arbres de par leurs feuilles présentes, eh bien, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment décomposé. Quand il est devenu vraiment une sorte de purée, de poussière d'une couleur unie, où les morceaux sont vraiment de petites dimensions, où la couleur est vraiment sombre, unie, et je vous dis qu'il n'y a plus moyen d'identifier les plantes qui ont permis la composition de ce compost, alors oui, il est prêt à l'emploi.
Quelle est la meilleure période pour planter des magnolias? Question de Bob.
Il y a encore aujourd'hui des problèmes concernant beaucoup d'éditeurs sur la date de plantation des arbres. Beaucoup de personnes me disent, est-ce qu'il est encore temps de planter des arbres? Oui, il est largement temps. On peut planter des arbres jusqu'en mars, avril. Avril étant la date limite. Et bien pour le magnolia, je dirais que c'est la période idéale. Le magnolia est une plante qui aime bien la terre de bruyère. Et les végétaux qui poussent dans ce type de sol ont des racines fragiles. En les plantant le plus tard possible au printemps, la cicatrisation sera beaucoup plus rapide. Car je vous rappelle que quand on plante un arbre, on doit tailler les racines, donc il y a une cicatrisation à opérer. Donc les plantes de terre de bruyère se plantent prioritairement à la fin de l'hiver.
Faut-il bêcher son massif d'arbustes?
Ça ne sert absolument à rien. Au contraire, on risque d'endommager les racines. On risque également de nuire à toutes les petites bestioles qui vivent sous terre. On se contentera simplement de griffer en surface.
Vous avez, je crois, une conférence à nous signaler.
Et oui, la Société Nationale d'Horticulture de France organise une conférence ayant pour thème les fabuleuses légumineuses qu'on appelle aujourd'hui fabacées. Les légumineuses, ce sont des plantes incroyables capable de capter l'azote de l'air, de la restituer à la terre. C'est assez extraordinaire. Et cette conférence se tient le 26 janvier 2017 à Saint-Germain-en-Laye. Oui, mais il faut s'inscrire, voyez-vous. S'inscrire si vous voulez participer à cette journée. Alors, comment faire pour s'inscrire? Vous allez sur le site France Inter. Et si, logiquement, mes petites demandes sont suivies des faits...
Vous voulez dire si Martin Broyer, notre assistant, met en...
Mais je n'ai aucun doute. Vous tapez www.snhs.fr et vous pouvez vous inscrire. Vous verrez, il n'y a absolument aucun problème.
Très bien. Merci Alain Baraton, c'est tout.
SNHS.org, si vous avez... pardonnez-moi.
D'accord.